Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais évoquer aujourd'hui une figure du théâtre français, bien oubliée aujourd'hui sans doute, mais qui a marqué son époque et dont l'œuvre n'est pas sans intérêt. Je veux parler de Eugène Labiche. Eugène Labiche, pour vous situer l'époque, il est né en 1815, il est mort en 1888. Pour l'anecdote, signalons qu'il a été reçu à l'Académie française en 1880. Et très vite, Eugène Labiche va se tourner vers le théâtre. Son premier grand succès au théâtre, c'est Un chapeau de paille d'Italie, écrit en 1851. C'était son premier grand succès. Je vous signale, si jamais vous avez l'occasion, parce que la télévision n'est pas friande de ce genre de choses, il existe un film muet de 1928, un des premiers succès de René Clair, le metteur en scène, avec Albert Préjean dans le rôle principal. Eugène Labiche a écrit 174 pièces. Oh, toutes ne sont pas d'un égal intérêt, mais on peut signaler quand même, en 1857, l'affaire de la rue de Dorsine. C'est une pochette sympathique. Si jamais vous avez l'occasion de la parcourir, n'hésitez pas, ça ne prendra pas très longtemps et ça vaut le déplacement. Et puis nous arrivons en 1960. En 1960, est joué pour la première fois ce qui restera sans doute la pièce majeure de son répertoire, Le Voyage de Monsieur Perrichon. Alors, pour bien percevoir la portée de la pièce à l'époque, il ne faut pas oublier que 1860, ce sont les débuts du chemin de fer. Alors, le chemin de fer, bon, personne ne songerait à le mettre en cause aujourd'hui, mais beaucoup d'écrivains se sont élevés avec vigueur contre l'apparition de ce moyen de transport en commun. Et puis, 1860, c'est une date importante aussi par rapport à l'Empire de France, puisqu'à l'époque, on est sous le Second Empire. En 1860, la Savoie est rattachée à la France à la suite d'un référendum qui recueille un pourcentage de oui impressionnant pour que la Savoie devienne française. Alors je signale quand même que le voyage de M. Perrichon, a été écrit avec un collaborateur. Labiche a écrit beaucoup de pièces avec un collaborateur. Ce collaborateur, ben, malheureusement, on ne sait presque rien sur lui, c'est Édouard Martin, qui est né en 1828, mort en 1866. Quelle est la part de Labiche? Quelle est la part de M. Martin? La pièce est passée comme une œuvre de Labiche à la postérité. Alors, respectons la tradition. Alors, le voyage de M. Perrichon, c'est quoi? D'abord, une référence qui vient immédiatement à l'esprit. C'est en le voyant jouer ou en le lisant, on pense immédiatement à une pièce très célèbre de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire ces gens qui, comme le disait de façon allusive Jean Cocteau, veulent poéter plus haut que leur lutte, qui s'imaginent qu'il est autre chose que ce qu'il est. Alors, cela dit, nous ne sommes quand même pas retombés dans une imitation pâle de Molière. Alors, l'acte premier du voyage de M. Perrichon se situe dans une gare. À l'époque, c'était révolutionnaire. On a du mal à imaginer aujourd'hui ce que cela pouvait représenter. Plus exactement, dans une gare d'où partent les trains à destination de Lyon. Et nous faisons connaissance avec deux jeunes gens qui vont tenir toute la pièce, Daniel et Armand. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont tous les deux remarqué une adorable jeune fille, et ayant les moyens, ils ont décidé de la suivre où elle allait pour savoir. Alors ils ont découvert qu'elle s'appelait Henriette, qu'elle était la fille de M. Perrichon, un carrossier, et de Mme Perrichon. Nous faisons également connaissance à cet acte 1 d'un commandant très particulier. Ce commandant, qui restera le commandant tout au long de la pièce, veut se libérer de sa maîtresse. Il a une maîtresse qui lui coûte cher, qui le trompe, et il ne peut pas se détacher d'elle. Alors, il ira même jusqu'à demander à ce qu'on l'emprisonne pour échapper à sa maîtresse. Et sur le quai de la gare, dans l'indifférence des employés de ce qui n'était pas encore à la SNCF, la famille Perrichon est en émoi. C'est la première fois qu'elle va effectuer un voyage aussi long et en plus en commun, avec la promiscuité, avec les bagages qu'il faut surveiller, avec les billets qu'il faut acheter à temps, avec le renseignement sur le quai de départ. Il ne faut pas se tromper, sinon on risque... Bon. Et on voit enfin apparaître, dans toute sa splendeur, Monsieur Perrichon, qui, inspiré au plus profond de lui-même, n'hésite pas à déclarer sur le quai de la gare « Adieu France, reine des nations !» Après ce premier acte de présentation, peut-on dire, à l'acte 2, nous sommes dans une auberge. Une auberge en Haute-Savoie. Je vous rappelle que la Savoie vient d'être rattachée à la France. Et cette auberge se trouve près de la mer de glace. Alors bien sûr, la mer de glace... Monsieur Perrichon a décidé d'aller voir la mer de glace. Il est allé à cheval, mais bon, il ne sait pas se servir des éperons et, évidemment, il fait une chute. Et on le ramène à l'auberge, plus ou moins traumatisé par sa chute. Or, qui est-ce qui l'a tiré d'affaire? Eh bien, c'est Armand, l'un des deux jeunes gens qui sont amoureux d'Henriette. Alors, nous voici à l'auberge. Armand, vite, de l'eau, du sel, du vinaigre. Daniel, qu'est-il donc arrivé? Henriette, mon père a manqué de se tuer. Est-ce possible? Perrichon, ma femme, ma fille, ah, je me sens mieux. Henriette, tiens, bois, ça te remettra. Merci. Oh, quelle culbute. Madame Perrichon, c'est ta faute aussi. Vouloir monter un cheval, un père de famille, avec des éperons encore. Perrichon, les éperons n'y sont pour rien, c'est la bête qui est ombrageuse. Madame Perrichon, tu l'auras piqué sans le vouloir et c'est cabré. Henriette, et sans Monsieur Armand qui vient d'arriver, mon père disparaissait dans un précipice. Madame Perrichon, il y était déjà. Je le voyais rouler comme une boule, nous poussions des cris. Henriette, alors, monsieur s'était lancé avec un courage, un sang-froid. Vous êtes notre sauveur. Car sans vous, mon mari et mon pauvre ami, elle éclate en sanglots. Armand, il n'y a plus de danger, calmez-vous. Non, ça me fait du bien. À son âge, ça t'apprendra à mettre des éperons. Tu n'aimes pas ta famille. Henriette. Ah, Armand, permettez-moi d'ajouter mes remerciements à ceux de ma mère. Je garderai toute ma vie le souvenir de cette journée, toute ma vie. Perrichon. Monsieur Armand. Non, laissez-moi vous appeler Armand. Armand, comment donc ? Armand. Donnez-moi la main. Je ne sais pas faire de phrase, moi, mais tant qu'il battra, vous aurez une place dans le cœur de Perrichon. Je ne vous dis que cela. Madame Perrichon, merci. Monsieur Armand, Henriette, merci. Monsieur Armand, Armand, mademoiselle Henriette. Daniel, qui a écouté tout ça, je commence à croire que j'ai eu tort de prendre mon café. Madame Perrichon, à l'auberge, il vous ferait reconduire le cheval, nous retournerons tous en voiture. Perrichon, mais je t'assure, ma chère amie, que je suis assez bon cavalier. Aïe ! Quoi ? Oh, rien, les grains, vous. Vous ferez reconduire le cheval. Madame Perrichon, viens te reposer un moment. Au revoir, monsieur Armand, Henriette. Au revoir, monsieur Armand, Perrichon. À bientôt, Armand. Aïe ! J'ai trop serré. Et Armand reste dans la salle de l'auberge avec Daniel. Et Daniel pense que il a perdu des points dans sa conquête d'Henriette, puisque Armand vient de sauver le papa. Et c'était sans compter sans la vanité de M. Perrichon. Et Daniel, qui a compris le bonhomme, décide d'agir. Et après un passage qui a une importance relative dans l'intrigue, Perrichon accepte de signer le livre d'or de l'auberge. Alors, voici ce que M. Perrichon a écrit sur le livre d'or. Que l'homme est petit quand on le contemple du haut de la mer de glace. Passage, il écrit mère, M-E, accent grave, R-E, comme une mère de famille. Daniel, oh, sapristi, c'est fort. Armand, courtisan. Perrichon, ce n'est pas l'idée de tout le monde. Alors, à présent, Daniel et M. Perrichon se mettent en route pour une promenade. Et Armand se demande qu'est-ce que Daniel est en train de trafiquer. À ce moment-là, il est abordé par le commandant qui lui demande de le faire emprisonner. Armand ne comprend pas et le commandant lui explique « Bah oui, mais voilà, si vous m'emprisonnez, je vais échapper à ma maîtresse. » Je comptais m'en amuser 3 jours, et voilà 3 ans qu'elle me tient, elle me trompe, elle me ruine, elle me rit au nez. Je passe ma vie à lui acheter des mobiliers qu'elle revend le lendemain. Je veux la quitter, je pars, je fais 200 lieues, j'arrive à la mer de glace. Et je ne suis pas sûr de ne pas retourner ce soir à Paris, c'est plus fort que moi. L'amour, à 50 ans, soyez-vous, c'est comme un rhumatisme, rien ne le guérit. Et Armand commence à se rapprocher de Madame Perrichon, sentant que de ce côté-là, il a des chances d'avancer. Et c'est là qu'arrive la deuxième partie de la pièce, la plus importante. Je vous propose avant une pause musicale. Dans l'auberge, entre Perrichon, vite, de l'eau, du sel, du vinaigre, il fait asseoir Daniel. Qu'y a-t-il? Perrichon, un événement affreux. Faites-le boire, frottez-lui les tempes. Daniel, merci, je me sens mieux. Armand, qu'est-il arrivé? Ah, Daniel, sans le courage de Monsieur Perrichon. Non, non, pas vous, ne parlez pas. C'est horrible. Nous étions sur la mer de glace. Le Mont Blanc nous regardait tranquille et majestueux. Mais dépêche-toi donc. Un instant, que diable! Depuis 5 minutes, nous suivions tout pensifs un sentier abrupt qui serpentait entre deux crevasses de glace. Je marchais le premier. Tout à coup, j'entends derrière moi, comme un éboulement, je me retourne. Monsieur, il désigne Daniel, venait de disparaître dans un de ces abîmes sans fond dont la vue seule fait frissonner. Alors, n'écoutant que mon courage, moi, père de famille, je m'élance. Sur le bord du précipice, je lui tends mon bâton ferré, il s'y cramponne, je tire, nous tirons. Et après une lutte insensée, je l'arrache au néant. Et je le ramène à la face du soleil, notre père à tous. Henriette, oh papa, Madame Perrichon, mon ami. Perrichon, oui, mes enfants, c'est une belle page. Et Perrichon, tout content d'avoir sauvé quelqu'un, n'arrête pas d'en bassiner tout son entourage. Et quand même, les époux Perrichon en finissent par arriver à l'essentiel, à savoir que il y a eu en fait deux de mariage, demande en mariage pour Henriette. Monsieur Armand a demandé à Madame Perrichon, Daniel, mon ami Daniel, comme dit Monsieur Perrichon, a demandé à Monsieur Perrichon. Et évidemment, Monsieur Perrichon, tout content d'avoir sauvé Daniel, est prêt en plus à lui donner sa fille. Alors que Madame Perrichon, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus intelligente, lui préfère Armand. Et c'est là-dessus que s'achève le deuxième acte. À présent, nous en arrivons au troisième et dernier acte, celui où la situation va se dénouer. Nous sommes chez les Perrichon, à Paris. Au fond, une cheminée, un canapé, un guéridon. Monsieur Perrichon, sa femme et leur fille sont là et Jean arrive. Jean, c'est nous. Ah, Jean, c'est le serviteur. Ah, monsieur, madame, mademoiselle. Perrichon. Oh, qu'il est doux de rentrer chez soi, de voir ses meubles, de s'y asseoir. Madame Perrichon, nous devrions être de retour depuis 8 jours. Mais nous pouvions passer à Grenoble sans aller voir. Les Darimé, ils nous sont retenus. Est-ce qu'il est venu quelque chose pour moi en mon absence? Oui, monsieur. Tout est là, sur la table. Armand Desroches, Daniel Savary. Armand Desroches, Daniel Savary, charmant jeune homme, Armand Desroches. Jean, ces messieurs sont venus tous les jours s'informer de votre retour. Madame Perrichon, tu leur dois une visite. Perrichon, ah, certainement j'irai le voir, ce brave Daniel. Et monsieur Armand, j'irai le voir aussi, après. Et monsieur Perrichon et madame Perrichon ont une conversation. Et madame Perrichon dit à son mari, il faut absolument que tu prennes un parti. Nous ne pouvons tarder plus longtemps à rendre réponse à ces deux jeunes gens. Deux prétendus dans la maison, c'est trop. Perrichon, moi, je n'ai pas changé d'avis, j'aime mieux Daniel. Pourquoi? Je ne sais pas. Je le trouve plus. Enfin, il me plaît, ce jeune homme, mais l'autre. L'autre t'a sauvé. Perrichon, il m'a sauvé. Ah, toujours le même refrain. Madame Perrichon, qu'as-tu à lui reprocher? Sa famille est honorable, sa position excellente. Perrichon, mon Dieu, je lui reproche rien. Je ne lui en veux pas, ce garçon. Mais je lui trouve un petit air pincé. Lui? Oui. Il a un ton protecteur, des manières. Il semble toujours se prévaloir du petit service qui m'a rendu. Madame Perrichon, il ne t'en parle jamais. Je sais bien, mais c'est son air. Son air me dit, hein, sans moi, c'est agaçant à la longue. Tandis que l'autre, Madame Perrichon, l'autre, te répète sans cesse, hein, sans vous, hein, sans vous, cela flatte ta vanité, et voilà pourquoi tu le préfères. Moi, de la vanité, j'aurais peut-être le droit d'en avoir. Oui, madame, l'homme qui a risqué sa vie pour sauver son semblable peut être fier de lui-même, mais j'aime mieux me renfermer dans un silence modeste, signe caractéristique du vrai courage. Et alors, on apprend qu'un journal en Savoie a écrit un petit article sur le sauvetage de Daniel par M. Perrichon. Alors évidemment, M. Perrichon est aux anges. Il fait commander des exemplaires du journal. On saura par la suite qu'en fait, c'est Daniel qui a fait paraître l'article en question. Ça a coûté quelques sous, mais du coup, il est devenu un dieu pour M. Perrichon. M. Perrichon, le sauveteur des classes. Alors, les choses semblent bien mal parties pour ce pauvre Armand et puis pour Henriette aussi, parce que finalement, elle a réalisé qu'elle aimait, que c'est Armand qu'elle aimait. Alors, un petit détail qu'on apprend au cours de la pièce. Après que M. Perrichon a écrit sur les livres d'or de l'hôtel La Mer, M-E-R-E de glace, le commandant, qui veut à tout prix être enfermé pour échapper à sa maîtresse, a fait une remarque en disant que quand on ne connaissait pas l'orthographe, il valait mieux s'abstenir. Monsieur Perrichon, qui a vu cette remarque, a barré et a écrit en dessous paltoquet. Ce qui n'a pas plu au commandant, qui n'hésite pas à venir demander réparation à M. Perrichon. Et voilà donc M. Perrichon, menacé par un duel avec le commandant. Oh, un duel sans risque, parce que M. Perrichon accepte avec courage le duel et prend soin d'écrire au préfet de police qu'un duel va avoir lieu. Madame Perrichon, informée du duel, écrit au préfet de police que duel va avoir lieu à tel endroit, tel jour, à telle heure. Et Daniel, lui aussi, a envoyé une lettre. Ce qui fait que le préfet de police a reçu 3 lettres. Et Armand, lui, a décidé de prendre le taureau par les cornes, si j'ose dire, et fait emprisonner le commandant, comme le commandant lui a demandé, pour échapper à sa maîtresse. Finalement, de ce côté-là, les choses vont s'arranger. Le commandant accepte que M. Perrichon retourne en Savoie pour barrer ce fameux paltoquet. Et on revient à l'intrigue initiale, c'est-à-dire qui va l'emporter de Daniel ou d'Armand. Et ça, on va le savoir grâce à une conversation entre Armand et Daniel. Non pas la conversation en elle-même, parce que Daniel explique à Armand pourquoi il n'a aucune chance d'y arriver. Daniel, tenez, je vous aime Armand et je veux vous donner un bon avis qui vous servira pour une fois, pour une autre fois. Vous avez un défaut mortel. Lequel ? Vous aimez trop par rendre service, c'est une passion malheureuse. Par exemple, croyez-moi, j'ai vécu plus que vous et dans un monde plus avancé. Avant d'obliger un homme, assurez-vous bien d'abord que cet homme n'est pas un imbécile. Pourquoi ? Parce qu'un imbécile est incapable de supporter longtemps cette charge écrasante qu'on appelle la reconnaissance. Et Daniel avoue à Armand qu'il a fait semblant de faire une chute pour que M. Perrichon puisse le sauver, que c'est lui-même qui a financé l'article qui est paru dans le journal. Seulement voilà, Daniel n'a pas prévu une chose. Pendant qu'il parlait avec Armand, la porte était ouverte et Perrichon a tout entendu. Et Perrichon arrive et il dit à Daniel, j'ai déjà fait beaucoup pour vous. Je vais faire plus encore, je vais vous donner un conseil. Parlez moins haut quand vous serez près d'une porte. Oui, je vous remercie de la leçon. Monsieur Armand, vous avez moins vécu que votre ami, vous calculez moins, mais vous me plaisez davantage. Je vous donne ma fille. Et c'est ainsi que le voyage de Monsieur Perrichon s'achève pour le plus grand bien des amoureux, mais ça, c'est la règle du théâtre. Je vous remercie de m'avoir écouté.